Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Évidemment, je ne suis pas seul, je suis avec Rémi. Salut Rémi, comment vas-tu ?
Yo la team, bah écoute, ça va, ouais, tranquille, ça avance.
Ça regarde les playoffs même sans Chicago ? On est habitué ?
Ouais, ça on est habitué, écoute, c'est pas quelque chose de problématique de pas les voir, hein. Encore une fois, je suis content qu'ils disent quoi pas. Mais ils continuent de vouloir s'efforcer. Ils ont proposé un contrat de 80 millions à DeRozan sur 2 ans, moi je comprends toujours. Et il a refusé en plus.
Ah, quelle franchise en débâcle, c'est fou. Celui qui a son équipe qui n'est pas qualifiée non plus pour les playoffs, c'est Miguel. Salut Miguel, comment vas-tu ?
Bah écoute, ça va super bien, il y a les playoffs, le basket commence enfin, et bah écoute, moi aussi je suis habitué à quand même. C'est en playoff, hein, ça. ça évite de se faire voler en demi-finale.
Ouais.
En plus, il fait un peu le malin parce que son équipe elle est en playoff.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que j'allais bientôt vous rejoindre en vacances. Dans cette émission, nous allons parler des premiers tours de playoff à l'Est. On va commencer tranquillement par les premiers matchs, faire un petit débrief. Histoire d'examiner tout ça, sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe, c'est parti. Et les gars, on va commencer tout de suite bah, du coup, par le premier de conf, qui affronte Miami. On parle bien entendu de Boston, avec un premier match en antenne européenne ce dimanche. Quoi dire à part que Boston a assumé son rôle de premier de NBA, tout simplement ?
Boston, ça gère clairement la série comme il faut, défensivement c'est solide. Miami, ils ont du mal à voir le jour. Bon, en plus de ça, ils ont un Jimmy Butler qui est absent. Donc ça, évidemment, ça leur fait encore plus mal. Mais au moins, Boston gère sans se faire peur. Et ça, c'est bien.
Yes, carrément. Miguel, t'as regardé le match dimanche ?
Bah, bien sûr. C'est ce qui nous avait manqué la saison dernière, justement, Boston qui nous faisait peur. Et là, en vrai, avec l'équipe qu'ils avaient, ils ont besoin de ça. Forcément, ils sont aidés que Jimmy Butler soit pas là. Et je pense que c'est tout l'affiche qu'on rêvait de voir cette saison. Ce Boston Miami.
Malheureusement, pas au complet côté Heat.
Pas mais... au complet, ça enlève quelque chose. Maintenant, à voir. Hein, peut-être que Miami va. Bam Adebayo va se découvrir
en monstre. Moi, je vois mal Miami exister dans cette série. Hein. Moi, pour moi, au vu du premier match. Parce que. Ouais. Là, il y a 20 points d'écart, mais quasiment, les gars ont quasiment pas joué. Enfin, le début du quatrième, ils viennent à la fin par principe pour finir sur le terrain, mais enfin, le banc a bien tourné aussi parce qu'il y a eu jusqu'à 26 points d'avance, il me semble, en première mi-temps. Enfin,
ouais, c'était un hommage.
C'est chaud, quoi. En troisième quart.
Le troisième quart. Pas beau.
C'est le troisième quart qui est énorme côté Boston. Ils mettent un 31-14.
Ça fait mal.
Ça pique. Retour de vestiaire, c'est chaud. Hein. Donc, très solide, tout le monde est impliqué, que ce soit défensivement ou en attaque. À la limite, Jalen Brown, pas trop dedans, mais bon, il a su être là défensivement malgré tout. Et puis autour de lui, bah, Porzingis a été incroyable, Tatum incroyable, Derrick White, on n'en parle pas, en fait, c'est peut-être le meilleur contrat de la NBA, ce mec. Tellement il est fort par rapport à ce qu'il est payé.
Clairement.
Donc, côté Boston, je vois pas comment Miami peut revenir dans la série. Au pire, s'ils en prennent un, ça sauvera l'honneur, mais ce sera tout pour moi.
Moi, je pense que dans le pire des cas, ouais, Miami peut en prendre un à domicile sur un Tyler Hero qui est en feu ou quelque chose comme ça. C'est pas impossible. Mais là, on est parti sur un sweep de Boston sans trop de soucis. Et en fait, ça leur permet non seulement de se reposer pour le deuxième tour, et en plus de ça, d'être tranquille parce que là, ils sont sereins. Genre, il n'y a pas de pression mentale ou autre normalement qui pèse sur eux.
C'est clair. Je vous propose qu'on passe direct à une autre confrontation, puisque bah, du coup,
on peut enchaîner, y a
pas grand chose à développer sur Boston. Et on part aussi sur le futur adversaire de Boston en demi-finale, qui sera soit les Cavs, soit le Magic. Et pareil, deux matchs dans cette série. Deux matchs parfaitement gérés par Cleveland. Orlando, je ne sais pas s'ils sont vraiment à la hauteur de l'événement, en fait. Je les sens contents d'être en playoff, mais j'ai pas l'impression qu'ils se donnent autant. Enfin, on voit que le step des playoffs a été peut-être un peu gros pour Orlando et Paolo Banchero notamment, même si en soi il fait quand même 22 points sur la série. Mais Non, je trouve que c'est très dur. Ils n'ont pas dépassé les 90 points sur les deux matchs. Cleveland défend très dur. La raquette fonctionne super bien. Evan Mobley, c'est un poison. Jarrett Allen, il tourne en 16-20 quasiment. C'est parfaitement géré côté Cavs. Ces deux scores qui sont plus ou moins faibles par rapport, enfin en termes d'écart de points par rapport au contenu du match, quoi. C'est géré de bout en bout côté Cleveland.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Le step-up défensif de Cleveland est assez impressionnant. Il y en avait pas mal qui avaient certaines attentes sur Cleveland, notamment par rapport à leur play-off de l'année dernière, où ils ont un peu fait caca culotte. Et il y en a beaucoup qui espéraient voir Orlando gérer cette série. Là, sur les deux premiers matchs donc, qui sont à Cleveland, ils ont géré d'une main de maître pour au moins leur série.
C'est clair, c'est clair. Miguel ?
Moi, j'ai plus parlé d'Orlando, en vrai. C'était mon petit chouchou de la saison. Ouais. Et en vrai,
parce que sur la saison, ils ont été...
Bah oui, c'est sûr. Et je le sentais en plus, l'équipe. J'avais une petite confiance sur cette équipe. Et je pensais en vrai qu'ils allaient être très dangereux, dans le sens où, certes, ils n'ont pas d'expérience, mais justement, ils n'ont rien à perdre.
Une fougue de jeunesse.
Ouais, voilà, la petite fougue de jeunesse, tu vois. Ils allaient se donner à fond. Et en fait, Cleveland allait être surpris. Mais en fait, là, il y a... Clairement, pour l'instant, il y a non-match sur les deux premiers matchs.
Ouais.
J'attends de voir Orlando à domicile, voir si, je sais pas, porté par son public, ils vont essayer de prendre des matchs, mais il faudrait qu'ils prennent les deux. Et là, je désespère pas, mais pour l'instant, ce qu'est en train de montrer Cleveland, ouais, c'est sûr que c'est mal embarqué, je pense.
Il y a moyen que, en fait, si Cleveland en prend un en Floride, la série soit déjà terminée. En fait.
Ah oui, c'est terminé s'ils en prennent un là-bas, clairement.
Sur saut d'orgueil pour Orlando dans le Game 3, ou sinon ça rentre à la maison, quoi.
Malheureusement. Par contre, côté Cleveland, je trouve que ça rassure vachement. Il y a eu beaucoup d'interrogations, le leadership de Donovan Mitchell, sa capacité à pouvoir scorer en playoff, la défense de certains mecs et tout. Moi, je trouve que toutes les bouches sont fermées, toutes les cages sont cochées. Pour un moment.
Ouais, carrément. Après, carrément,
Seulement contre Orlando, j'ai envie de dire. Peut-être la match-up la plus simple de ce playoff. Parce qu'ils ont fini 5e, mais c'est une jeune équipe, pas d'expérience, pas de... C'est une bonne équipe qui défend bien, mais voilà, il n'y a pas non plus de superstar, il n'y a pas un mec qui risque de t'en mettre 50, il n'y a pas toutes ces menaces-là.
Ouais.
Donc, normal qu'il la gère, et c'est bien qu'il le fasse, mais du coup, il coche quand même les cases qu'il devait cocher. Je trouve que c'est bien.
Plutôt d'accord avec ça. On part sur de l'autre côté du tableau, parce que du coup on a fait le tour pour Cleveland. Milwaukee Indiana, série plutôt intéressante. On sait que Giannis est absent sur ses quelques premiers matchs. Je sais pas encore s'il y a une date de retour par ailleurs. En tout cas, Milwaukee a fait le travail.
Il n'y en a pas encore,
c'est pas annoncé. Okay.
C'était annoncé par Roche comme quoi il était absent sur le début de la série, mais on n'a pas de date de retour exacte.
Ok, je vois.
Je pense que ça dépend de comment la série est gérée.
Ok. Bah, de toute façon, on a eu un match bien géré avec une bonne entame en première mi-temps. Milwaukee qui gagne les deux premiers quart-temps, qui met quand même 69 points en première mi-temps. Donc,
Lillard qui a 35 points à la mi-temps.
Et ça encaisse que 42. Donc c'est plutôt propre, on a retrouvé l'identité défensive. Et ouais, tu dis Damien Lillard, 35 points en première mi-temps. Incroyable.
Ouais, incroyable. Très solide.
Il a assumé son statut.
Trop fort, en fait. On en avait parlé ensemble lors de la preview l'autre jour, Gus. Je te disais, je ne sais plus si c'était en off ou si c'était pendant l'épisode, ou sur la série, en fait, on se posait la question de, en l'absence de Giannis, est-ce que Lillard sera vraiment le patron qu'on attend ? Il y avait pas mal d'interrogations parce que la série des Bucks, elle était moyenne. Enfin, la saison des Bucks est moyenne, etc. Et donc, il y en a pas mal qui se disaient, on verra vraiment si Lillard, c'est le patron dont tout le monde parle, calibre MVP. Oui, en fait.
Sur ce match, il a montré qu'il était capable de porter cette équipe. Après, il ne faut pas non plus retirer les très bons apports des roleplayers. On parle de Bobby Portis, on sait qu'en playoff, il est super important. Là, il met encore 23 points dimanche. Middleton a fait un très bon match aussi. C'est pas 23 points, c'est 15 points.
Bobby Portis, c'est un
pour Bobby. Et 23 pour Middleton, donc en soi, tu vois, le supporting cast a bien marché.
Ouais.
Évidemment, quand tu donnes 36 minutes à Pat Beverley, on sait que le match il est plutôt dans ton sens.
Ouais,
parce que d'habitude, c'est pas toujours son temps de jeu de base, mais,
Mais là, si tu veux Giannis, c'est plutôt malin, parce que comme ça, t'as Iris Oliverton, en fait, il a du mal à voir le jour. Il finit qu'à 9
points.
Compliqué pour
Exactement. Et ça permet à Lillard de se reposer, entre guillemets, en défense, aussi.
Oh, dans tous les cas, ça, il allait se reposer en défense. Hein.
Ouais, mais tu t'as pas le meilleur joueur adverse non plus, quand même.
Ouais, non, oui, c'est sûr.
Donc non, très satisfait de ce premier match de playoff pour Milwaukee. Indiana, malgré tout, en soi, je trouve qu'ils ont fait un bon match. Il y a une réaction dans le troisième quart. Ils ont remporté le troisième quart-temps. Siakam a montré qu'il pouvait guider l'équipe aussi avec son expérience. Bah, surtout, oui, il a montré son expérience, quoi. Pascal, il en met 36 hein, quand même,
ouais.
avec 13 rebonds. Donc c'est très propre. Maintenant, j'en attends plus quand même de Tyrese qui fait seulement 9 points avec très peu de shoots tentés, des pourcentages corrects, mais j'attends un leadership un peu plus fort au final. Et je l'ai trouvé, tu vois, il joue 38 minutes pour seulement 9 points à 57% au tir, va provoquer plus en fait. Alors certes, pas la défense de Milwaukee. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est exactement le problème. Après, est-ce que pour lui, c'est une manière de faire en sorte que son équipe soit concernée, que tout le monde soit concerné en distribuant plus le ballon, etc. Ça peut. En attendant, c'est lui le meilleur joueur de l'équipe et c'est le franchise player, donc il faut qu'il se montre un peu plus. Et je pense qu'une réaction au Game 2 pourrait être intéressante s'ils veulent essayer de ne pas être trop ridicule sur la série. Quoi. Sachant que pour l'instant, il n'y a pas Giannis, en fait. Donc tu peux créer, aller prendre des matchs, en fait.
Ouais, mais en plus de ça, non seulement les Bucks sont très bien défendus, mais en plus de ça, il y avait quand même une maladresse au shoot côté Indiana. Mentalement, je pense qu'ils n'étaient pas à l'aise, surtout quand il y avait 20 points d'écart déjà au milieu du second quart. Et les shoots rentraient pas. Hein,
seulement 39% au tir global et 21% à 3 points en en prenant 38.
Ouais,
c'est chaud. Pas top. C'est compliqué.
Et puis le banc qui t'apporte pas assez.
Ouais, assez faible. Obi Toppin est passé un peu au travers aussi. McConnell, bon, c'est ton remplaçant au poste de guard, c'est chaud quand même. Enfin, on voit qu'en playoff, la profondeur de banc côté Indiana commence à se voir. On savait que ça allait être une question et pour l'instant, c'est pas dans le bon sens que la réponse nous est donnée. Quoi. Miguel, ouais. T'as vu le match un peu toi aussi?
Celui-là, je l'ai pas vu celui-là, mais par contre, moi, j'ai quand même un petit truc qui me fait peur dans cette histoire, c'est que, bah, comme on l'a dit, Lillard, il a fait un gros match et en vrai, il fait une différence, surtout première mi-temps.
Bah oui.
Mais le truc, c'est que sur cette saison, il nous a déjà montré plusieurs fois, et quasiment toute la saison, qu'il arrivait à nous faire des très gros matchs. Mais le problème, c'est que c'était pas régulier. Donc, moi, si au Game 2, bah, il fait pas le taf, Indiana, ils ont l'équipe pour et. En fait, j'ai l'impression que cette équipe, elle repose trop sur la performance de Lillard.
Bah en l'absence de Giannis, t'as pas le choix. Hein.
Ouais, en l'absence de Giannis.
Ouais, je suis moyennement d'accord, parce que tu vois, seconde mi-temps, Lillard, il marque pas du tout. Je crois qu'il a pris peut-être quelques shoots, mais vite fait, il les a pas rentrés. En fait, il a juste fait distribuer le ballon sans prendre de tir. Et en fait, c'était ouvert partout. Alors, le fait que Lillard était à 35 points à la mi-temps, ça joue, parce que du coup, les défenses étaient à fond sur lui. Ça, c'est sûr, ça joue.
Ah oui.
Mais du coup, ça a créé des tirs ouverts dans tous les sens, et derrière, les mecs rentraient leurs shoots. Que ce soit Portis, que ce soit n'importe qui d'autre, Middleton aussi, qui a pu en prendre.
Malik Beasley a pu en prendre aussi,
ouais, tout à fait. Enfin...
Donc, non mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est intéressant ce que dit Miguel, parce qu'au final, si le non-match de Lillard, arrive au Game 2, et que Giannis n'est toujours pas là, et ben en fait, il y a moyen de prendre un match si Indiana est sérieux et appliqué dans ce qu'ils savent faire. Parce qu'un match d'attaque, ils sont capables de gagner. Si on leur demande de trop défendre, ça va être l'enfer. Mais si les mecs mettent pas un tir, ça, ils savent gagner les matchs après.
Ouais, je suis d'accord.
Donc ça peut être intéressant.
J'espère qu'il y en a un, d'ailleurs.
Bah, je le souhaite, ce serait récompenser une belle saison malgré tout.
Ouais.
Donc voilà pour Indiana Milwaukee.
Ouais, dernier truc que je voulais noter, c'est qu'il y a Bénédicte Mathurin du coup qui est absent, qui est blessé malheureusement. Et non seulement ça se ressent du coup dans la profondeur de banc côté Indiana, mais en plus de ça c'est dommage parce que il prend pas d'expérience dans ses playoffs. Alors que c'est le moment où faut en prendre.
Faut en prendre, c'est vrai. C'est un peu dommage, effectivement. Et puis son apport aurait été non négligeable aussi.
Ah bah ça leur ferait du bien, hein, clairement.
Le gagnant de cette série affrontera soit New York, soit New York.
J'aurais fait pareil.
Puisque les Knicks mènent 2-0 dans la série face aux Sixers, les Knicks qui ont terminé deuxième de conférence, on le sait. Match de samedi, compliqué à digérer pour nous Sixers, mais par contre, on a vu la grinta, l'envie et la combativité des Knicks, qui ont été plus ou moins derrière tout le match, mais qui sont là au final, qui commencent à passer devant, et surtout un money time qui a été très bien géré. Moi, j'ai un aspect tactique à parler. J'ai bien aimé l'idée de Thibodeau de doubler poste bas Embiid lorsqu'il l'était, même s'il l'a été très peu dans le match, pour l'obliger à lâcher les balles ou justement à s'écarter parce qu'on sait que physiquement il n'est pas à 100%. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que dès qu'on est rentré dans le money time, ils ont arrêté de doubler poste bas et l'ont obligé à prendre ses tirs en verrouillant toutes les lignes de passe. Le truc, c'est qu'en fait, bah, du coup, il n'avait aucun repère parce qu'il n'a pas bossé ça tout le match. Il n'avait pas ce repère poste bas et il a loupé la plupart de ses shoots et de ses tentatives poste bas. Soit il n'obtenait pas la faute parce que on sait qu'Embiid est plutôt privilégié aussi par les arbitres, entre guillemets. Il a le coup de sifflet, il peut avoir le coup de sifflet facile, c'est ce genre de joueur. Et en plus de ça, bah, il loupait tous ses tirs. Donc plutôt une bonne idée de défense, de tactique défensive pour gêner le money time des Sixers. Donc ça, j'ai plutôt aimé. Tyrese Maxey a fait un très bon match, on en parlera aussi, il a été énorme dans le game 2, mais en fait victoire méritée samedi soir pour New York.
Victoire méritée de New York, ouais, on l'a regardé ensemble Gus, en vrai on y croyait ouais. Pour filer tout du long, on a eu peur deuxième quart-temps parce qu'on a joué à l'Embiid du coup qui sort sur blessure, enfin sur...
Ouais, il va se faire examiner quoi.
Ouais, sur l'action de Alley-Oop là, d'ailleurs belle action, hein, on voit rarement Embiid faire ça, mais belle action, mais sur la chute, ouais, on dirait qu'il se fait mal. Il revient en seconde mi-temps, donc ça a l'air d'aller, mais on sent quand même qu'il a une petite gêne. On sent qu'il y a un petit truc, un petit pépin, on sent qu'il y a un...
Ça se voit. Ça se voit, c'est con. C'est dommage. Et ça s'est vu aussi sur le Game 2 d'ailleurs.
Et ça s'est vu aussi sur le Game 2, ouais, tout à fait. Bah en fait, après, le problème, moi le vrai problème que j'ai, mais peut-être que c'est lié du coup à ce pépin physique, c'est qu'en fait Embiid il est trop souvent à l'arc à 3 points et il a pas assez son cul posé sous le panier, alors que c'est là qu'il est le meilleur, parce qu'il est indéfendable, il y a faute obligatoire, et en fait pourquoi est-ce qu'il reste pas son cul sous le panier et qu'il s'écarte à chaque fois?
Moi, parce que physiquement il peut pas en fait peser autant et se retourner autant à faire des moves de haut poste, son genou il tiendrait pas en fait.
Ouais, c'est possible.
Je pense que le problème, il est là.
Ça coûte des matchs, en tout cas.
Ça coûte des matchs, et surtout, c'est compliqué de demander à Embiid d'être un point de fixation poste bas sans lui donner des shoots. Parce qu'en fait, dès que tu lui donnes la balle, tout le monde s'écarte par principe. Ouais. Et même s'il s'est amélioré cette saison sur tout ce qui était passe, etc., on l'avait vu déjà l'année dernière avec James Harden, mais il s'est vachement amélioré sur comment appréhender une prise à deux et quand lâcher son ballon. Le problème étant que tu vois, par exemple, dans le Money Time, quand New York laisse jouer poste bas Embiid, et ben en fait, t'as personne qui bouge autour. Parce que tu te dis, on le laisse jouer sa match-up.
Ouais, je suis d'accord.
Mais ça, c'est un problème, tu vois. Ouais. Même si tu viens pas gêner son espace, tu dois créer du mouvement, tu dois poser des screens, laisser un mec un peu ouvert à 3 points. Nico et tout, ils sont capables de poser ces écrans-là. Ils faisaient très bien aux Clippers, tu vois, de poser des flares, etc. Il fallait créer du mouvement, chose que les Sixers n'ont pas fait, donc c'est dommage.
Ouais, je suis d'accord, mais il y a quand même quelques phases de jeu où ils l'ont bien fait. On l'a vu au Game 1 où on avait Otto Porter du coup qui venait couper sous le panier. Et Embiid, il l'a trouvé quelques fois pour un petit shoot facile sous le panier qui se fait bien. Donc même s'il va pas travailler au poste, prendre des shoots compliqués et tout, en fait la menace de Embiid sous le panier à 2m50, elle fait trop peur.
Tu parlais pas de Kelly Oubre plutôt?
Kelly Oubre, ouais. Putain, j'ai dit quoi?
Autoporteur.
Ah, non, rien ça à fait
plus chaud.
Rien à voir. Il est un peu loin, lui.
Ouais, un petit peu. Mais oui, effectivement, c'est un aspect du jeu qu'on aimerait bien voir plus souvent quand Embiid peut être ce point de fixation. On l'a pas vu et on l'a pas encore moins vu sur le Game 2. Miguel, tu nous parles un peu du Game 2?
Je peux te parler du Game 2, ouais. Avec surtout la fin, en fait, qui est...
Oui, oui, oui.
qui est juste incroyable, en fait. Mais de toute façon, la différence qu'il y a entre ces deux équipes, c'est, pour moi, c'est juste l'envie. Nous dire comment ils se sont battus comme des chiens là sur les... Enfin, franchement, moi, quand je regarde la fin de match, je me dis, bah, c'est bon, c'est gagné pour Fila. Et en fait, c'est, tu vois, les gars qu'on a envie. Et enfin, je sais pas, ça se bat au rebond, ça.
En fait, pour résumer, t'as une équipe qui en a vraiment envie et ça se voit sur le terrain, et il y en a une autre qui pleure en conférence.
C'est un peu ça. Dans l'idée, non, en vrai, si on veut aller un peu plus loin, en fait, le problème, c'est que on l'avait vu déjà au premier match parce que Philly subit 23 rebonds offensifs de la part des Knicks. Ce qui est beaucoup trop. Et en plus, dans le Money Time, t'as Josh Hart qui en chope 2, machin, ça te coûte le match. Et tu retiens pas ces erreurs-là. C'est-à-dire que dans le Money Time, t'es à plus 3, plus 5. Brunson met un 3 points un peu chanceux qui rebondit sur le cercle, qui rentre. Et derrière, tu subis 2 rebonds offensifs parce que tu sécurises pas ton rebond. Il y a une très bonne défense de la part de New York sur la remontée. Parce qu'en fait, aucun joueur de Philly s'écarte de cette zone de remise en jeu. Et du coup, tu as les 5 New Yorkais qui défendent leurs joueurs mais qui sont quasiment dans les 3 points. Ça, c'est un problème. Déjà, premièrement, quand tu encaisses ce 3 points de Brunson, ça doit être temps mort, coach. Ça doit être temps mort. Il te reste 14 secondes. Tu dois le prendre. Sachant qu'en plus, tu vois comment la configuration se présente. C'est-à-dire que t'as tout le monde qui est agglutiné dans la zone à 3 points. Tu peux pas relancer un ballon propre. Alors certes, tu veux lancer la balle pour avoir une faute. Sauf que déjà, il me semble que c'est Nico qui fait la remise en jeu. Il met 4 secondes à la faire parce que personne se démarque. La balle est envoyée sur Maxi. La balle est envoyée sur Maxi, qui perd un mal, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec ses mains, il est un peu gêné. La balle quitte ses mains, elle est disputée, il la récupère au sol. À ce moment-là, t'as Nick Nurse qui demande le temps mort, t'as Nico qui demande le temps mort. Les arbitres, là, ils voient plus rien, je ne sais pas pourquoi. Alors certes, visuellement, quand Nick Nurse demande le temps mort alors qu'il est à côté de l'arbitre, un New Yorkais... a les mains sur la balle. Donc, tu peux pas te tenir en position de... Enfin, tu peux pas être en détention du ballon et demander ton temps mort. Donc, il peut pas le donner. En revanche, tu dois le prendre bien avant. Sur le panier encaissé, t'es à plus 2. Tu dessines un système ou alors pour libérer un mec en zone offensive qui subit une faute pour aller au lancer. Plutôt que de jouer un truc risqué alors que tout le monde est agglutiné dans cette zone à 3 points. Ça, c'est une faute de coach aussi. Alors, certes, en conférence de presse, Nick Nurse s'est agacé parce que pendant l'action, il demande le temps mort. Mais c'est trop tard, en fait, tu dois le prendre bien avant.
Tu dois t'assurer. C'est trop tard, et en plus de ça, c'est mal géré par Philly dans cette fin de match. Du simple fait qu'ils ont quelques points d'avance, en fait, ils se permettent de... En fait, pour eux, on a l'impression que le match est gagné parce qu'ils ont 3 points d'avance et qu'il reste 15 secondes.
Ouais, alors juste avant, même, au bout de 20, il restait 25 secondes ou un truc du. Enfin, 30 secondes et t'as 5 points d'avance, pour eux c'est fini. Mais je crois qu'ils n'ont pas regardé le match 6 des finales 2013 en fait. C'est tout.
Ouais, ouais exactement. Ouais.
Donc ça, tu vois, genre un peu de nonchalance et on voit les Knicks qui en fait, sur du coup cette balle disputée au sol sur Maxey qui récupère le ballon, qui sort sur DiVincenzo à 3 points, qui ne marque pas, rebond offensif d'Artenstein parce que Tobias Harris. Et Nico Batum font pas un écran de retard alors que c'est un truc qu'on apprend en poussin. Et derrière, ça ressort à nouveau sur DiVincenzo qui envoie un dagger qui envoie le Madison Square Garden dans l'espace. Ouais. Et c'est mérité, en fait, tout simplement.
C'est clairement mérité, absolument.
Donc, Philly est mené 2-0. Retour à Philadelphie jeudi soir pour le Game 3. Pas le choix, en fait, de remporter ce match. Sinon, bah, c'est quasiment foutu, en fait.
Bah, les deux. Donc, on a remporté ce match, vraiment pas le choix, parce qu'en fait, dans l'attitude des mecs, ils ont pas le choix s'ils veulent revenir.
Espérer, donc c'est chaud.
Mais Joel Embiid lui-même a dit comme quoi ils étaient la meilleure équipe, donc ils allaient gagner la série.
J'espère, mais montre-le-nous du début à la fin du match et sur tous les détails, en fait.
Ouais. C'est tout. Ouais, clairement. Et soit le leader qu'on attend, en fait, motive tes troupes, réveille-les et fais ce qu'il faut. Pour le moment, Joel Embiid, désolé, autant le joueur est très bon. Autant il n'est pas le leader qu'on attend.
Maxi est très bon, mais en fait il joue à deux les mecs. C'est ça le problème. Il joue à deux. Tu regardes le box score, le banc marque pas de points parce que en fait le seul gars du banc à qui tu donnes des shoots, c'est Nico Batum. Sauf que Nico, on sait qu'en fait lui il pense d'abord à l'extra passe, donc il y a toujours des mecs ouverts. Le problème c'est que Tobias Harris il met pas un T-jeu. Kelly Oubre hier il passe à travers sur le match 2. Enfin en fait c'est compliqué.
Ah, c'est
compliqué de garder la responsabilité d'une équipe qui est dans le doute sur deux joueurs. Ça doit être collectif, en fait, que tu reviens dans la série. Donc, faut ouais. impérativement qu'au Game 3, il se réveille.
Ouais,
voilà.
C'est
pour la conférence S. Est-ce que vous avez autre chose à donner sur ce match, les gars?
En vrai, t'as un peu tout dit. On sent que t'es clairement impliqué par la série. Ça se ressent.
Ah ouais. C'est dommage que Vincent soit pas là pour en parler, d'ailleurs. Mais,
ah ouais, ouais, en vrai, ouais, ça aurait été bien. Ouais,
j'espère qu'il sera là pour les prochaines émissions sur l'Est.
Parce que pour cette série, en fait, on ressent que Philly... Désolé Vincent, mais on ressent que Philly est la meilleure équipe sur le papier. Il y a plus de talent. Sur les papiers, ils sont meilleurs dans beaucoup de domaines. Mais ils n'ont pas l'envie, ils n'ont pas la niaque, ils se bougent pas. Et ça, c'est frustrant. Mais... De Philly, ça doit être compliqué.
Ouais, c'est chaud. T'inquiète, on connaît les histoires comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sait que nous, en plus, dans les matchs qui comptent, on est naze. Donc ça se trouve, jeudi soir, la série est déjà pliée, mais on verra bien. Faut y croire, mais.
Moi, je pense que clairement, Philly peut revenir. Ils vont être à domicile. Je pense que ça va pas mal aider. J'espère vraiment qu'il y a 2-2 là dans 4 jours.
Et bah, je le souhaite vraiment. Je le souhaite vraiment. Voilà, du coup, pour cette conférence Est. Du coup, est-ce que après ces premiers matchs, on se penche un peu sur qui va passer selon vous sur chaque série, vite fait, avant de se quitter?
Ouais, vas-y, ouais, carrément.
Allez, je prends le tableau des playoffs. Il est juste là, le bracket est devant mes yeux. Donc, on a dit Boston Heat. Je pense qu'on est tous sur Boston.
Ouais, clairement. Je pense
demi-finale.
Pour le haut de tableau, on a tous un Boston, Boston Cavs en demi-finale de conf.
Il y a des chances que ce soit ça pour moi aussi. Miguel, pour le Magic, mais...
Je suis désolé aussi, hein, parce que je vais dire Cleveland. Hein,
La marche est trop haute.
Bah, c'est compliqué. En fait, on se posait quelques interrogations au début des playoffs, mais là, le Game 1, je pense que Cleveland a répondu à trop de choses. Et trop dur pour Orlando d'aller chercher une première série aussitôt.
Effectivement. Et surtout face à des Cavs aussi solides.
Ouais.
Bucks Pacers. Est-ce qu'on
moi,
y
pense
croit
que les Bucks vont quand même gérer. Ce que je te disais tout à l'heure, je pense que Giannis, pour le moment, il est out, il a un petit pépin, on le repose. Si vraiment Indiana y revient, bim, Giannis y revient. Et en plus, Giannis, sur la saison, il fait du 45 points de moyenne face à Indiana. Donc, si Giannis revient, la série est retournée, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres pépins physiques pour la suite des playoffs. Mais tant que c'est géré par les Bucks sans Giannis, pas de raison qu'il revienne.
Effectivement. Moi, je pense que Indiana peut faire chier, mais je vois les Bucks passer quand même.
Mais par contre, ouais, Indiana, là, on a eu un match qui n'était pas si serré au Game 1. Par la suite, je m'attends à ce qu'il y ait des matchs quand même où Indiana a plus de répondants. Plus de réussite au shoot, en fait.
Miguel,
Bucks. Moi, Bucks, et franchement, je veux un Bucks en 7. Je veux un match avec un Giannis qui revient et qui les écrase en mode, bon, bah désolé les gars, je me suis fait attendre, mais en fait, on passe.
45 points, 13 rebonds, 10 passes, et hop, merveilleux.
Ouais, basique, quoi.
Et du coup, New York, Philly. Bah moi, je mets New York.
Ouais, moi, je mets New York qui passe aussi, mais je pense que Philly va revenir quand même et que ça va être compliqué.
Moi, je mets New York et c'est mérité pour New York.
Moi, si je dois voir un Game 7, c'est sur cette série-là.
Ouais, ce serait magnifique. Et c'est sûr qu'on le perd, du coup.
Et du coup, c'est sûr que vous le perdez, ouais, absolument. Ouais, moi, je pense que là, Philly, ils peuvent le faire. Je pense qu'ils peuvent récupérer deux matchs. Et puis ça peut monter jusqu'à un Game 7. Je pense que c'est la série où c'est le plus probable que ça arrive.
Miguel ?
Moi, je suis quelqu'un qui a de l'espoir. Et je pense que New York va gagner.
C'est beau.
Désolé, Gus, mais...
Ah, mais t'inquiète, hein, j'ai mis New York aussi, là, c'est normal. Hein.
Mais avec Rémi, on sera là pour te réceptionner dès que tu seras en vacances.
Parfait. Bah,
nous, on est sur la plage avec Ligo, ça rentre à
Préparez les cocktails, j'arrive. Allez, c'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. On est aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter, @WakeUpNBA. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Vive le basket, vive la NBA. Ciao.
Ciao tout le monde.